L'invité de la rédaction, Valérie Vial.
Mon invité de la rédaction aujourd'hui est Thierry Ross, consul honoraire d'Israël Grand Est à Strasbourg depuis décembre 2025. Mission de continuation de feu son père Gilbert Ross. Nous allons aujourd'hui préciser le rôle et la mission d'un consul honoraire et qui plus est, d'Israël, petit pays mais dont la médiatisation parfois haineuse demande un engagement et un rôle diplomatique fort. Thierry Ross, bonjour.
Bonjour Valérie et bonjour aux auditeurs de Radio Judaïka.
78e anniversaire de l'indépendance de l'État d'Israël, un jeune pays sur une terre ancestrale qui est constamment remise en cause par une jeunesse en mal d'idéal, encouragée par leur gourou. Alors ici en France, mais plus largement en Europe et par-delà le monde, est-ce que cette haine vous renforce votre lien et votre engagement au profit d'Israël?
Alors c'est certain que depuis que j'ai pris mes fonctions, en fait j'ai été installé en décembre 2025, mais mes fonctions officielles et ce qu'on appelle l'exéquature qui est signée par le président de la République française, puisque je suis citoyen français, cette exéquature a été signée au mois de juin. Donc j'étais en fonction déjà depuis un moment. Et effectivement, il y a eu un ressenti très fort sur la haine d'Israël et c'est effectivement une des missions, on va dire, politiques du consul de faire en sorte d'expliquer, de justifier les actions de l'État d'Israël et puis de donner, de redorer un peu l'image. Donc les principaux pierres d'achoppement se sont déroulées au Conseil de l'Europe où Je ne siège pas parce que je n'ai pas cette qualité, mais en tant qu'observateur Israël, enfin la Knesset exactement est observateur au Conseil de l'Europe, et nous avons là eu du fil à retordre, nous avons toujours, mais le rôle du consul, c'est justement, enfin d'un diplomate en général, c'est d'apaiser les situations et d'essayer de donner un sens positif aux choses.
Donc vous avez un rôle de communication?
C'est un rôle politique. C'est plus là. Alors j'ai fait de la politique, vous le savez, j'ai eu des mandats, j'ai fait pas mal de campagnes électorales. Là, on est en plein jour, sur le devant de la scène, on va dire, et exposé. Le rôle politique d'un consul, c'est plus un rôle d'influenceur, on va dire, mais ça se fait dans l'ombre, ça se fait dans les arrières-scènes, on va dire, et on essaye de pas. D'ailleurs, depuis que je suis entré en fonction, je n'ai plus fait aucun commentaire sur la politique, en tout cas de mon pays, la France, ni sur celui d'Israël. Mais vous avez dit une chose tout à l'heure, Israël, petit pays, menacé.
Petit pays, je parlais évidemment
c'est un petit
de
pays.
La surface géographique.
Mais ce petit pays a deux grands atouts. Le premier, c'est ce que disait Golda Meir, notre arme secrète pour Israël, c'est que nous n'avons nulle part où aller d'autre. Et le deuxième, c'est un petit pays, mais avec une très grande famille. J'entends la diaspora, mais pas que. On a des amis qui ne sont pas juifs, des évangélistes, beaucoup en Alsace. Et il y a beaucoup de pays qui aiment Israël, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Il y a des pays comme l'Inde, comme aujourd'hui la Grèce, etc., qui sont, la Hongrie, qui sont des amis d'Israël, quoi qu'il en soit, et quoi qu'on entende dans ces médias un peu tapageux en France.
Vous vous sentez soutenu alors? Alors il y a l'exemple très concret de l'épisode de l'Eurovision qui a eu lieu samedi, qui a été diffusé au niveau européen, mais bien au-delà, parce que c'est pas de frontières géographiques justement. Le soutien de la diaspora, mais au-delà, parce que quand on fait le compte des votes, il y a un grand engouement pour Israël. C'était une façon de soutenir ce petit pays, comme on aime l'appeler, et c'était une façon d'apporter son soutien à l'ensemble de la communauté juive, du peuple juif, du peuple hébreu, et au-delà, parce qu'Israël, ce n'est pas que le peuple hébreu.
Exactement. Je pense que l'image d'Israël est assez détériorée. D'ailleurs, on dit que c'est le pays le plus détesté du monde dans les statistiques.
Voilà, ça dépend aussi de qui lance effectivement ces statistiques.
Qui on interroge. Je pense que déjà les statistiques et les sondages qu'ont fait le CRIF en France nous prouvent que 70% des Français supportent Israël, sont supporters d'Israël, enfin aiment Israël et soutiennent Israël. Ce qui ne correspond pas du tout à la ligne politique du Quai d'Orsay ou de certains gouvernants européens et dans d'autres pays. Cette grande famille de ce petit pays, effectivement, on a tous voté 10 fois pour le candidat israélien, mais ça ne suffit pas.
Chut, on ne le dira pas.
Non, mais on l'a tous fait, et puis tous les autres l'ont fait aussi. On a le droit de voter 10 fois, on vote 10 fois. Cependant, je pense que, bien sûr, les mauvaises langues d'extrême gauche vont dire que Israël a truqué, etc. Alors, c'est vrai qu'Israël a lancé une campagne de communication internationale, ça fait longtemps maintenant, pour redorer son image. Elle a investi de l'argent dans des communicants, y compris en France, pour redorer l'image qui est vraiment détériorée à tort. Et ça fait partie peut-être des effets de cette communication pour montrer Israël sous son bon jour, puisque Israël, c'est un pays de 10 millions d'habitants, composé de 140 nationalités différentes. Et ce que j'ai dit dans mon discours lors de la réception que nous avons donnée pour Yom HaTzmaout, c'est un pays qui est un laboratoire du monde et qui a fait de l'exil une force. Pourquoi ? Parce que lorsque, et c'est ça qui est exemplaire, je trouve, face aux autres gens, en dehors du mythe du kibboutz où tout le monde voulait aller pour faire un peu d'humanitaire et puis cette ambiance. Mais en dehors de cela, Israël est un pays qui a dû affronter énormément de difficultés. Et les gens qui sont arrivés en Israël au début du XXe siècle en particulier, ils n'avaient rien. Et ils sont arrivés sur une terre promise, certes.
Une terre aride, hein, il faut le dire.
Voilà, c'était le désert. Aride, hein. C'était le désert, c'était pire que ça. Tel Aviv, c'était des marécages avec des moustiques, de la malaria. Une terre qui ne pauvre, qui était infertile et tout. Et donc, quand j'avais été à une soirée avec Shimon Peres, il y a une jeune qui a demandé à Shimon Peres, comment vous avez réussi ce miracle ? Il dit, mais on n'avait pas le choix. On a retroussé nos manches et on a bossé. Et donc le miracle, ce n'est pas seulement Hachem qui a fait ce miracle, c'est aussi la volonté de réussir et de d'émanciper, c'est la fin de l'émancipation juive, hein, Israël, d'émanciper une terre, d'émanciper un peuple, d'émanciper une nation. Et aujourd'hui, si vous regardez les statistiques, en Israël, un Israélien travaille en moyenne 2000 heures par an. En France, c'est 1500. Ce qui n'est, bien sûr, je ne veux pas comparer avec les pays du Moyen-Orient, mais c'est des gens qui ont vraiment une volonté de réussir, une volonté, une fierté aussi pour leur pays, et ils s'investissent.
Israël, vous, aujourd'hui, ici, à Strasbourg, quel est votre rôle en qualité de consul honoraire? Vous recevez des gens qui veulent se déplacer. Pour leur alia, il y a l'agence juive, il y a d'autres moyens. Vous mettez-vous en lien avec le Conseil de l'Europe et des personnes de la diaspora qui auraient peut-être des choses à dire en commission? Quel est votre lien exact, votre mission, monsieur le consul?
La première chose, je voudrais préciser une chose, c'est comment on devient consul. J'ai entendu dire, ben oui, c'est le fils d'eux. C'est vrai.
On va en parler de cet héritage familial, vous a transmis, bien sûr.
Bien sûr.
Après, ce n'a pas été un héritage. Vous non. êtes battu, vous avez fait les démarches qu'il fallait. Il y avait quelque chose de l'ordre pour vous, au-delà de l'héritage, d'une mission. Et vous êtes battu aujourd'hui pour pouvoir exercer cette mission bénévole, hein, je tiens à le préciser.
Bénévole. Bah, d'abord, si c'est le moment d'en parler, oui. J'en parle maintenant. Comment on devient consul? Tout d'abord, c'est vrai que mon père l'a été et que mon père, de mémoire bénie, reste pour moi un exemple. C'est vrai que j'ai marché dans ses traces, j'ai fait comme lui, j'étais au consistoire, j'étais élu à la ville. Comme lui, je me suis investi pour Israël. Et ça, Israël, c'est venu du fait que ma grand-mère a terminé sa vie en Israël avec son mari. Et que est né cet esprit sioniste. Pour moi, c'était dans les années 75. Donc, ce n'est pas récent. Et effectivement, en dehors d'être le fils d'eux, je me suis beaucoup investi pour travailler avec papa d'abord au consulat. Donc, ça faisait déjà 10 ans au moins que je travaillais régulièrement avec l'ambassade. Et la deuxième chose, c'est que j'ai été investi dans des associations qui soutient Israël, particulièrement le Keren Hayesot, dont j'ai été le premier président Grand Est pendant 5 ans. Et j'ai aidé le MDA, etc. Bon, toutes les associations en lien avec Israël
Donc le Keren Hayasod aujourd'hui, qui est un organisme reconnu d'État voilà. et qui met en place des programmes sociaux pour la population voilà. israélienne, le Magen David Adom, qui est en fait qui représente la Croix-Rouge française, voilà. et qui a des équipes de paramédics en Israël et qui est sur les lieux et du quotidien et de la guerre voilà. pour venir en aide à la population.
Donc je travaille avec toutes ces associations. Moi, j'ai milité, bien sûr. Et on devient consul après avoir été proposé par un diplomate. Donc c'était Madame German à l'époque qui m'a proposé. Et donc mon dossier était au ministère des Affaires étrangères en Israël. Foreign Office, comme on dit. Foreign Affaires, pardon. Et j'ai eu un avis favorable. Mais ça ne passait pas parce qu'il y a eu un changement politique en Israël et que la personne qui m'a proposé n'était pas du bon côté. On a refait une demande avec l'ambassadeur Zarqa et j'ai finalement été nommé en Israël. Après, ce n'est pas fini. Il y a une enquête qui se fait en France par le Quai d'Orsay, puisque je suis citoyen français, de voir si j'étais de bonne conduite, casier judiciaire, etc. Donc j'ai été appointé par la France. Ça retourne en Israël et là, c'est signé par le président d'État d'Israël et c'est signé ensuite par le président Macron qui a signé ce qu'on appelle l'exéquature.
Donc vous avez une reconnaissance officielle du côté français aussi ?
Oui, tous les diplomates en place en France sont appointés, ont l'exéquature du président de la République, y compris l'ambassadeur. C'est une règle, et puis on nous donne une carte qui justifie notre fonction. J'ai même entendu quelqu'un qui parlait de népotisme, c'est-à-dire de favoritisme filial, ce qui est faux. C'est de l'héritage, et pour moi, Gilbert Ross reste mon exemple à suivre et je le suis. Je n'arrive pas à le dépasser. Maintenant, les fonctions. La première fonction, pour résumer mon rôle, c'est représentant de l'État d'Israël. Ça, c'est pour commencer. Donc, je suis le représentant officiel de l'État d'Israël. Donc, on s'adresse à moi. Effectivement, les citoyens d'Israël en difficulté, il peut arriver, ça ne m'est pas arrivé encore, de devoir visiter un citoyen d'Israël dans une prison, comme ça fait tous les consuls le font. Ensuite, consul honoraire, comme vous l'avez dit, c'est bénévole. On n'est pas des consuls de métier comme les consuls généraux, mais avec qui on fait partie du même corps consulaire cependant. Et le rôle, c'est d'aider d'abord les citoyens d'Israël. Alors j'ai beaucoup de cas, des visas, des passeports, des étudiants qui arrivent qui n'ont pas leur permis de séjour. Il peut y avoir des gens qui ont été volés, donc il faut retrouver les papiers, etc. Bon, toutes ces situations qui affairent aux citoyens. Lorsque, en général, c'est le consulat de Paris, mon collègue, qui traite, mais tout est informatisé maintenant parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de demandes. Et vous le savez qu'il y a quelques milliers de citoyens d'Israël dans le Grand Est, donc j'ai pas mal de boulot pour les citoyens. Ensuite, il y a le rôle politique, comme je l'ai dit. Donc, dernièrement, par exemple, il y a eu cette loi sur la peine de mort dans les territoires palestiniens. Donc, il a fallu justifier, il a fallu travailler.
Vous expliquez la loi, alors, auprès des représentants européens ?
Disons qu'au Conseil de l'Europe, on a été attaqué là-dessus. Oui. Bien sûr, Gaza aussi, donc à chaque fois. On arrive toujours, grâce à nos ambassadeurs qui viennent, que j'accompagne, qui sont des gens de métier extrêmement compétents, extrêmement doués, et on arrive à temporiser, parce qu'il y a bien sûr des partis d'extrême gauche, il y a des pays hostiles qui voudraient nous voir quitter le Conseil de l'Europe de notre statut d'observateur. Ce n'est pas le cas, on résiste et on va rester. Après, politiquement, vous le savez, bon, on sort d'une campagne municipale éprouvante. Je ne suis pas intervenu dans la campagne, je n'y ai pas le droit, mais nous avons quand même combattu nos ennemis, le LFI, l'extrême gauche et les communistes qui veulent que, par exemple, le jumelage avec Ramat Gan cesse.
Pour l'instant, il est gelé, ce jumelage, il n'a pas été rompu.
Alors justement, madame la maire sortante avait décidé d'arrêter ce jumelage sous pression de son extrême gauche puisqu'elle s'était unie au LFI. Et nous avons œuvré pour que ça ne se fasse pas. Petite manœuvre politique via Boston qui nous a soutenus. Et donc il n'a été que gelé, effectivement. Et puis bien sûr, tous les autres candidats que je suis allé les voir, leur demander de rétablir ce jumelage et de le faire fonctionner. Et j'ai eu, bien sûr, tous les candidats, on va dire de l'arc républicain, même au-delà, à droite, on va dire, nous ont soutenus. Madame Trottmann, la nouvelle maire de Strasbourg, a, par mon intermédiaire, m'a demandé, en toute discrétion, vraiment personne ne l'a su, à se mettre en relation avec le maire de Ramat Gan quand il y a eu le 18 mars des bombardements avec des morts. Il y a eu quand même à Ramat Gan 80 missiles qui ont touché la ville. Sur, je parle depuis le 28 février, sur 200 attaques. C'est énorme. C'est une ville qui est meurtrie. Enfin, tout Israël est meurtri. Mais notre ville est jumelée. Et Madame Trottmann a demandé à parler au maire pour... et j'ai eu le soutien, bien sûr, de tous les autres... candidat, bien sûr,
qui sont amis. Et apporter son soutien logique au vu de l'ancienneté du jumelage. Mais aujourd'hui, vous, qui êtes dans les petits papiers, justement, est-ce que vous avez une idée de quand est-ce qu'il va de nouveau être officiel et rétabli ce jumelage ?
Il est rétabli. Il est rétabli. J'ai eu un entretien assez long vendredi dernier avec Madame Trottmann, qui m'a reçu dans son bureau, et nous avons parlé de nos projets, donc je ne peux pas encore en parler, mais il y a des projets qui sont en train de se faire. Il y aura une mission au mois d'octobre, où elle ne pourra pas venir malheureusement, mais nous avons des projets de faire des missions là-bas, et ça va se passer de maire à maire, c'est-à-dire le maire de Ramat Gan et la maire de Strasbourg vont eux-mêmes faire leur programme. Moi, j'aurai un rôle de facilitateur, et puis toutes les associations, comme le FSJU, le Consistoire... Morgan David Adam et Karen Aysot ont des rôles de facilitateurs et vont participer, bien sûr. Mais ça sera de maire à maire. Nous avons des projets culturels, donc ça, c'est une mission aussi du consul de faire des projets culturels pour montrer qu'Israël est un pays à la pointe de la culture. Vous connaissez le philharmonique, vous connaissez ces troupes de danse de... Bathsheba,
c'est de faciliter leur arrivée ici en France, voilà. Ou peut-être dans la région Grand Est, alors qu'on connaît justement quand le philharmonique d'Israël s'est produit à Paris et des interruptions par des groupuscules d'extrême gauche.
On n'en est pas encore là. Mais sachez qu'à Strasbourg, il y a par exemple au conservatoire, il y a beaucoup de musiciens israéliens.
Oui.
Aux Arts Déco, il y a des Israéliens. Ensuite, il y a le rôle des relations académiques entre l'université et nous. J'ai participé en novembre à une mission, parce que je suis universitaire, j'ai participé à une mission universitaire qui a fait à peu près toutes les universités, les grandes universités, Tel Aviv, Bar-Ilan, Jérusalem, et bien sûr Reichmann, où nous avons eu des difficultés avec Sciences Po. Je suis en relation étroite avec Emmanuel Droit, que je vois d'ailleurs la semaine prochaine, pour parler du jumelage entre Reichmann et Sciences Po. Et j'ai eu des propositions en Israël, d'universités israéliennes qui veulent faire des jumelages avec Strasbourg. Mais il y a énormément de chercheurs, énormément de... Vous allez à l'université de l'espace, vous allez dans les laboratoires, il y a des chercheurs. Et il y en a beaucoup plus qu'on ne pense, parce que le monde universitaire est au-dessus de tout cela. Pour le fameux Tikkun Olam, réparer le monde, on veut faire le bien autour de nous. En France, en Israël, dans le monde entier. C'est une vraie communauté.
Thierry Rose, vous, à titre personnel, vous recevez parfois des intimidations ou des menaces. Vous êtes ciblé par des propagandes haineuses. Ou pour l'instant, vous êtes un petit peu préservé de tout ça?
Alors, j'ai eu il y a longtemps des croix gammées dans l'entrée de mon cabinet dentaire, dans l'escalier. Il y a longtemps. C'est la seule fois. On reçoit de temps en temps, du temps de mon père, moi j'en ai pas encore eu, des lettres insultantes,
mais pas là
très peu.
Pas là depuis, effectivement, depuis le 7 octobre et la propagande.
Curieusement, j'ai eu beaucoup plus de soutien d'amis qui ne sont pas de la communauté juive, des confrères, des collègues, consuls ou quoi. J'ai eu beaucoup plus de soutien que d'inimitié. Sincèrement, jusqu'à présent, non, ça viendra peut-être, mais jusqu'à présent, je n'ai pas été embêté, on va dire. Et je pense qu'à Strasbourg, il y a quand même une espèce de pas de protection, mais de respect, on va dire, de respect pour les gens qui ne sont pas de votre, de votre avis ou de votre parti. Il y a un vrai respect à Strasbourg en politique et même les partis d'extrême gauche, jusqu'à présent non. J'ai eu affaire à la directrice du TNS puisqu'il y a eu sur la scène du TNS des manifestations pro-palestiniennes. Je suis allé la voir en lui disant bon, c'est de la culture, ça n'a rien à voir, mais bon, vous savez que M. Corbyn travaille au TNS, ça doit venir de là. Non, jusqu'à présent, je n'ai pas à me plaindre, mais je fais attention.
Vous êtes prudent à vous protéger ainsi que votre famille.
Je ne publie pas énormément sur les réseaux sociaux, enfin, alors que j'étais un adepte, non, je me suis mis un peu en retrait. Je suis prudent, je fais aussi attention à ma personne pour des raisons de sécurité. Je ne jouis pas de la, je n'ai pas de garde du corps ou quoi, donc, mais j'ai de très bonnes relations avec les services de police, bien sûr, en cas de problème.
Thierry Ross, dernière question, le temps imparti a déjà filé, malheureusement. Un vœu pieux pour Israël, vous, aujourd'hui? Alors, j'allais dire un vœu pieux, mais non, un vœu réaliste pour Israël.
Alors, je vais vous dire, le vœu réaliste pour Israël, c'est pas de moi, c'est du président Herzog. C'est que je puisse prendre ma voiture à Tel Aviv, aller skier dans les montagnes du Liban, me casser la jambe là-bas, comme je me la suis cassée ici, et me faire rapatrier en ambulance à Tel Aviv pour me faire soigner. Donc le vœu pieux, c'est que toutes ces frontières tombent, que Israël puisse vivre avec ses voisins dans le cadre des accords d'Abraham. Et vous le savez, c'est en train de progresser. Je suis convaincu qu'à l'issue de cette guerre, évidemment, le paysage du Moyen-Orient aura changé. J'en dis pas plus sur le conflit parce que tout le monde s'informe et j'ai rien à vous apporter de plus que ce que vous savez. Mais mon vœu pieux, c'est qu'on puisse fraterniser avec ses voisins, qui est la Gay Pride à Beyrouth, à Téhéran, à Amman en Jordanie, et que ces accords d'Abraham débouchent aussi sur des accords économiques. D'ailleurs, à Strasbourg, nous avons créé la chambre économique France-Israël Grand Est.
Thierry Ross, consul honoraire d'Israël Grand Est à Strasbourg, merci pour la sincérité de vos réponses. Et puis écoutez, on vous souhaite une très belle mission. Merci à vous.
Merci.
L'invité de la rédaction, Valérie Vial.